France Musique.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, deuxième épisode, les ballets russes. Au lendemain de la première de L'Oiseau de Feu, le 25 juin 1910, Igor Stravinsky est un homme célèbre. En quelques semaines, il rencontre tout ce que Paris fait d'artistes et de mondains, Debussy, Ravel, Florent Schmitt, Manuel de Falla, bientôt Puccini, Casella qui deviendra un ami, mais aussi Sarah Bernhardt, Claudel, Giraudoux. Une toute jeune musicienne, Nadia Boulanger, 22 ans, était également dans la salle le soir de la première. Elle est émerveillée. Rencontre fondamentale, Nadia sera une propagatrice forcenée non seulement des œuvres, mais de l'esprit de Stravinsky. Et puis il y a les mécènes qui littéralement se jettent sur lui, en un temps où l'essentiel des projets artistiques est financé par des donateurs privés, et surtout des donatrices, la comtesse Griffhul ou la princesse de Polignac. En somme, voilà en quelques semaines poser les bases d'une carrière pour les 30 ans qui viennent, même si à l'époque, comme l'écrira Debussy, Igor baise la main des duchesses en leur marchant sur les pieds, il n'en est que plus touchant. Pour tout le monde, L'Oiseau de Feu apparaît comme un accomplissement. Mais pour Igor, ce n'est que la fin de sa période russe. Plus tard, il parlera avec ironie de cette musique trop épaisse, trop épicée, de la bouillabaisse, dira-t-il. Trop riche, trop descriptif, trop pittoresque aussi. L'Oiseau de Feu, c'est le sommet de la musique russe rutilante, colorée, post-romantique et impressionniste à la fois, juste un peu brute de décoffrage pour bien plaire aux Parisiens. Un sommet et un cul-de-sac, il faut passer à autre chose. Cette autre chose, Stravinsky l'a déjà en tête. Alors qu'il achevait L'Oiseau de Feu, il a eu une vision. un grand rite païen, avec de vieux sages assis en cercle, observant une jeune fille qui doit danser jusqu'à la mort pour que les dieux du printemps soient propices. Igor en parle immédiatement à son ami Nicolas Roerich, qui sera bientôt chargé des décors. Dès le début de l'année 1910, le Sacre du Printemps est pensé et même largement esquissé pour la dernière scène. Mon nouveau ballet, Le Couronnement du Printemps, c'est ainsi qu'il l'appelle d'abord, n'a pas d'intrigue. C'est une série de cérémonies de l'ancienne Russie. Encore faudra-t-il décider l'imprévisible Diaghilev, ce sera pour plus tard. En attendant, Igor part avec toute la famille pour l'été à La Baule, où pour s'occuper, il écrit d'après Verlaine deux petites mélodies, enfin deux petits joyaux.
Oh,
Igor Stravinsky, les deux poèmes de Paul Verlaine par François Leroux, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par John Nelson.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Au lendemain de L'Oiseau de Feu commence pour Stravinsky une vie semi-nomade qui va être la sienne jusqu'à la guerre. Il suit Diaghilev et sa troupe, toujours en répétition, en représentation dans une capitale ou une autre, pour ce qui est au fond une tournée permanente. Et puis il s'arrête dans quelques lieux de villégiature pour écrire et pour la vie de famille. À Vevey naît son second fils, Soulima. Et c'est en Suisse, justement, cette même année 1910, que Diaghilev et Nijinsky le trouvent travaillant à ce qu'il appelle alors un Concertstück. Igor raconte « Avant d'aborder le Sacre du printemps, dont la réalisation s'annonçait longue et laborieuse, je voulus me divertir à une œuvre orchestrale où le piano jouerait un rôle prépondérant. J'avais la vision d'un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d'arpèges diaboliques, exaspère la patience de l'orchestre. Je cherchais pendant des heures le titre qui exprimerait en un seul mot le caractère de ma musique et la figure de mon personnage. Un jour, sursaut de joie, Petrouchka, l'éternel malheureux de toutes les foires de tous les pays. » Diaghilev saute sur ce qui n'est même pas une proposition. Ravel n'étant toujours pas décidé à achever Daphnis et Chloé, et comme il serait opportun de surfer sur le triomphe de L'Oiseau de Feu, l'impresario suggère de donner à ce projet purement symphonique au départ la forme d'un ballet. On s'entend sur une date de création, en juin, l'année suivante, sur l'argument, Petrouchka donc, dont Diaghilev fait une histoire. Histoire d'amour et de jalousie entre marionnettes, avec un pantin malicieux, un inquiétant rival, une foire, une population pittoresque de cochers, tziganes, montreurs d'ours. Enfin, de quoi bien s'amuser. Thank you. avec Petrouchka cette fois Stravinsky à la main. Plus, en tout cas, que pour l'Oiseau de feu. Le travail avance vite, au printemps, il retrouve Diaghilev à Rome, où se déroule l'exposition universelle, et où il achève l'œuvre, le 26 mai 1911. Depuis son premier ballet, l'évolution est considérable. Fini la grande fresque clinquante, orchestre dégraissé. Fini les mixtures et les alliages savants à la Rimsky, des timbres purs. Fini les chromatismes séducteurs, des rudesses harmoniques, du diatonisme, de la polytonalité, qu'il expérimente avant tout le monde avec délices et une oreille impeccable. Et puis il y a le rythme de Petrouchka, ces changements de mesure constants, ces déplacements de temps et d'accent qui vont poser quelques problèmes aux danseurs. Le folklore russe est bien là, avec des mélodies volées à droite à gauche, mais pas à la manière de Glinka ou de Rimsky, qui ne reprenaient des thèmes populaires que pour les polir et les polisser. Non, non, ici, c'est du brut. Au fond, Stravinsky ne le dit pas encore, peut-être ne le sait-il pas encore, mais la marionnette, c'est lui, l'artiste un peu sauvage, ballotté dans la grande foire du monde. Et le mage, c'est un peu Diaghilev, ce maquignon manipulateur, implacable, pervers, mais tellement séduisant. Petrouchka est aussi une allégorie du compositeur en cette année 1911. Il n'est plus un élève, l'essentiel du sacre d'ailleurs est déjà là, mais avec le sourire. La création, le 13 juin au Théâtre du Châtelet, sous la direction de Pierre Monteux, est à nouveau un succès. Décider Diaghilev à lui commander son prochain rituel païen n'est plus qu'une formalité.
Thank you.
Le quatrième tableau de Petrouchka d'Igor Stravinsky et Zapeka Salonen avec l'orchestre Philharmonia.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Puisque Serge Diaghilev est le grand personnage de cette période, une petite incise pour dire à quel point les deux hommes se sont aimés, chastement bien sûr, déchirés mais adorés jusqu'au bout. Dans ses chroniques de ma vie, Igor fait du célèbre impresario ce portrait piquant mais admiratif. Diaghilev possédait un flair hors ligne, une faculté extraordinaire de saisir d'emblée la fraîcheur et la nouveauté d'une idée et de s'emballer immédiatement pour elle avant tout raisonnement. C'était une nature vraiment large et généreuse, exempte de tout calcul. Un trait curieux de sa mentalité était son étrange indulgence pour l'honnêteté assez relative de certaines personnes qu'il approchait quand il en était la victime. Car ce qu'il détestait le plus, c'était la platitude, l'incapacité, le manque de savoir-faire. En un mot, il haïssait et méprisait la foule. La mort du dandy en 1929 sera l'une des plus dures qu'Igor ait eu à supporter. 40 ans après, il se fera même enterrer à Venise, à quelques mètres de l'ami disparu.
Thank you.
Cette fois encore, un grand œuvre achevé et tout en continuant à travailler au sacre, Igor revient à la mélodie. Ici, fin 1911, sur des poèmes de Constantin Balmont, de petites pièces furtives, presque cubistes. L'année suivante, il retrouve Nicolas Roerich en Russie et met avec lui la dernière main au livret du sacre, pensant à une création pour l'année même. Mais Ravel a enfin fini Daphnis, que les ballets russes présentent en juin 1912. Le printemps devra encore patienter. Igor assiste à la première de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel le 8 juin 1912, mais aussi au prélude à l'après-midi d'un faune chorégraphié par Nijinsky qui fait un petit scandale. Moins pour la danse ou les poses systématiques de profil, mais parce que le danseur, ici également chorégraphe, a conclu cette représentation charnelle mais éthérée parce que tout le monde a compris comme étant, n'y allons pas par quatre chemins, enfin c'est clair, autant le dire, une jouissance. Même si on y parle sans cesse d'amour et de désir, une jouissance sur scène, c'est assez rare pour être noté. Igor assiste aussi à une reprise de Péléas et Mélisande à l'Opéra Comique. Je voyais beaucoup Debussy à l'époque, qui me touchait profondément par la sympathie qu'il me témoignait à moi et à ma musique. Manière sobre de dire que les deux hommes s'apprécient beaucoup. Ils se retrouvent sur une admiration mutuelle, sur l'ironie, sur une forme de dureté, de misanthropie aristocratique même. Debussy lui fait rencontrer Erik Satie. « Il m'eut plu du premier coup », écrit Igor. C'était une fine mouche, plein d'astuces et intelligemment méchant. Entre deux séjours à Oustilug, à l'été 1912, Stravinsky rejoint à Bayreuth « mon cher gros ami », comprenez Serge Diaghilev. Ils voient ensemble Parsifal, dont Igor trouve la musique exceptionnelle, mais le rituel bayreuthien lui répugne. Il écrira plus tard « Ce qui me révolte dans toute cette entreprise, c'est le principe même de placer un spectacle d'art sur le même plan que l'action sacrée et symbolique que constitue le service religieux. » il serait décidément temps d'en finir une fois pour toutes avec cette conception inepte et sacrilège de l'art comme religion et du théâtre comme temple. Alors qu'il achève tout doucettement le sacre, Igor écrit « Svezdoliki », celui au visage d'étoile, qu'on traduit en français de manière erronée « le roi des étoiles », rare incursion stravinskienne dans un domaine mystique qui rappellerait presque Scriabine. L'œuvre est dédiée à Debussy qui la recevra en ces termes. C'est probablement l'harmonie des sphères éternelles dont parle Platon, ne me demandez pas à quelle page. Et je ne vois que dans Sirius ou Aldébaran une exécution possible. Quant à notre plus modeste planète, j'ose dire qu'elle restera telle une gaufre à l'audition de cette œuvre. De fait, cette pièce énigmatique ne sera créée qu'en 1939. Igor Stravinsky, Le Roi des Étoiles, par Pierre Boulez avec le chœur et l'orchestre de Cleveland.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Fin 1912, Stravinsky accompagne Diaghilev pour une tournée des ballets russes en terre germanique. Un voyage important. Il croise Richard Strauss, qui assiste à une représentation de l'Oiseau de Feu, et commente au grand amusement d'Igor « Vous faites une erreur en débutant en pianissimo. Le public ne vous écoutera pas. Il faut tout d'abord le surprendre par un grand coup d'éclat. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Soit dit en passant, Strauss travaille cette année-là à sa symphonie alpestre, qui commence la nuit, donc justement par un long passage pianissimo. Avec les grands hommes, on n'est jamais à une contradiction près. Igor est nettement moins bien reçu par les musiciens du Philharmonique de Vienne. L'un d'eux, jouant Petrouchka, dit même « Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ?» Igor, qui parle parfaitement l'allemand, apprécie peu, mais un employé de scène vient le consoler en lui posant la main sur l'épaule. « Ne soyez pas triste, ça fait 45 ans que je suis là, c'est pas la première fois. Pour Tristan, c'était déjà la même chose. » Plus important, lors du même voyage, Stravinsky rencontre Arnold Schoenberg et le 8 décembre assiste à Berlin à la 4e représentation du Pierrot Lunaire. Plus tard, il évoquera la chose avec un peu de distance, voire de mépris, mais il est alors profondément impressionné par la nouveauté du Pierrot. Il déclare tout de go « Schoenberg est l'un des plus grands créateurs de notre époque ». Ces trois poésies de la lyrique japonaise vont en tirer une leçon immédiate. La première des trois poésies est dédiée à Maurice Delage, la troisième à son ami Florent Schmitt, dont Igor avait entendu peu auparavant la suite d'après la tragédie de Salomé, une pièce sauvage qui l'avait vraiment impressionné et dont le sacre porte sans doute la trace. Le cycle des trois poésies de la lyrique japonaise est passionnant parce qu'alors qu'il met la dernière main à son œuvre la plus originale, on voit Stravinsky passer sans complexe d'un modèle à un autre. Il ne cherche pas à être absolument lui-même, ou plutôt, il est lui-même en changeant continuellement de masque. Le 17 novembre 1912, Igor achève la danse sacrale. Il donne des entretiens à des journaux où il dit tout le mal qu'il pense de l'art lyrique. « Je déteste l'opéra. Quels opéras ont été écrits depuis Parsifal ? Deux seulement, Electra et Péléas. » Fermez le banc. Il est à deux doigts de proclamer le genre inutile. Bon, on devra bientôt parler du Rossignol, opéra d'Igor Stravinsky, mais passons. Le 8 mars 1913, Stravinsky boucle la partition définitive du Sacre du Printemps. Dans la foulée, il part en Suisse, à Clarens, chez Pierre Monteux, en compagnie de Maurice Ravel. Ils doivent orchestrer ensemble certaines parties de la Kovanchina de Moussorgski que Diaghilev veut présenter sans coupure lors de sa prochaine saison. La complicité est alors réelle entre les deux compositeurs, même si elle ne durera pas. Il est bientôt temps de rentrer à Paris, où les répétitions du Sacre ont déjà commencé. Le chorégraphe historique des ballets russes, Michel Fokine, a repris sa liberté. Diaghilev veut mettre en avant son protégé et amant, Vaclav Nijinsky, un danseur exceptionnel, puissant, magnétique, qui a pris dans les ballets de Fokine une place que le danseur masculin avait depuis longtemps perdue dans le ballet romantique. Stravinsky le connaît bien, puisque c'est lui qui a créé le rôle de Petrouchka. C'est la star des ballets russes, ce qui explique aussi que Diaghilev, selon les mots d'Igor, se soit mis en tête d'en faire absolument un chorégraphe. Sur le choix de Nijinsky, Igor est sceptique. Il admire réellement le danseur, mais lui reproche de ne rien connaître à la musique. Il n'a sans doute pas tort. Signe de son insécurité, Nijinsky a réclamé un nombre délirant de répétitions, 130 sur une année entière, pour 7 services d'orchestre seulement. Stravinsky écrit « Il fallait sans cesse lui rappeler la mesure, ses divisions et ses valeurs. C'était exaspérant. On avançait à pas de tortue. » Et d'autant plus pénible que Nijinsky compliquait et surchargeait ses danses outre mesure, créant des difficultés parfois insurmontables. Il était clair qu'on avait chargé le pauvre garçon d'un labeur au-dessus de ses forces. Commencées fin 1912, les répétitions se poursuivent selon les lieux de déplacement de la compagnie, Vienne, Londres, Monte-Carlo. Igor y participe parfois. Mais le jeune homme, affable et attentif, qui 3 ans auparavant était curieux de tout, a fait place à un être sûr de lui et dominateur. Un jour, il fait renvoyer le pianiste allemand qu'il trouve trop lent, se met à sa place et joue à un tempo d'enfer, en hurlant et trépignant, poussant les danseurs jusqu'à leurs limites. Les rapports se tendent, les séances de travail deviennent électriques. Quelqu'un d'autre vient parfois assister aux répétitions, comme le raconte Jean Cocteau.
J'avais eu, pendant que le sacre se répétait et que Nijinsky inventait pour l'œil un spectacle aussi farouche et aussi chiffré que l'œuvre l'était pour l'oreille, une grande émotion à voir Claude Debussy suivre quotidiennement le travail, la partition d'orchestre ouverte sur ses genoux, admirant et souffrant d'une beauté qui n'était pas la sienne, qui gênait son cadre et devant laquelle sa noblesse d'âme s'inclinait avec quelques révoltes.
Pour bien comprendre ce que va représenter le sacre, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler ce qu'on peut entendre à Paris la semaine de mai 1913, où débute la nouvelle saison des ballets russes. Le Palais Garnier joue 3 œuvres en alternance, Thaïs de Massenet, Faust de Gounod, Tristan de Wagner. À l'Opéra Comique, salle Favart, les contes d'Hoffmann, Carmen, Louise et Tosca. À la Gaîté Lyrique, on peut voir Panurge, le Trouvère ou la fille de Madame Angot. Et puis bien sûr, puisque Paris est la ville des divertissements, n'oublions pas le Gaumont Palace, où depuis 2 ans, on fait des démonstrations de cinématographes. Plus loin, le Moulin Rouge, les Cafcons, enfin il y en a pour tous les goûts.
Il était né près du canal, par là, dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman, qui avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Mais on l'appelait la filoche à la bastoche.
Un théâtre nouveau, né de la volonté de Gabriel Astruc, a été inauguré le 2 avril pas loin des Champs-Élysées, d'où son nom, Théâtre des Champs-Élysées. C'est là que doit être donné l'essentiel d'une saison des ballets russes presque en demi-teinte. Boris Godounov avec Chaliapine, on l'a déjà vu. Salomé de Florent Schmitt, c'est une reprise. La création de jeu sur une musique de Claude Debussy le 15 mai a laissé tout le monde presque indifférent. L'événement attendu, c'est bien le spectacle qui doit clore la saison. Le Sacre du Printemps n'est pas proposé seul, mais avec des reprises de classiques de Fokine. Le Spectre de la Rose, musique de Weber, et les Sylphides, musique de Chopin. Enfin, c'est du consensuel, qui va accuser encore le contraste. Le 28 mai, c'est la répétition générale devant un public d'artistes, de mondains, de journalistes, de gens de lettres, dont beaucoup sont acquis à la cause. Mais Diaghilev est moins confiant pour la première. Sentant venir l'orage, il souffle aux danseurs « Quoi qu'il arrive, demain, restez calme. » Et au chef Pierre Monteux, surtout ne t'arrête sous aucun prétexte. Le 29 mai, la baguette de Monteux se lève sur le solo de basson le plus célèbre de l'histoire. Les premières mesures ont à peine commencé que des ricanements se font entendre. Diaghilev a engagé des jeunes gens pour faire la claque au parterre, applaudir et crier « bravo » très fort. Ils irritent immédiatement ceux qui n'aiment pas, qui se manifestent d'autant plus. Comme par contagion, tout le public embraye. Pierre Monteux raconte.
Il y avait deux partis. Il y avait un parti pour et il y avait un parti contre. C'est là que Florent Schmitt s'est levé et qui a dit « Ah bah, les grues du 16e, n'est-ce pas ?» Parce que le 16e arrondissement n'admettait pas cette musique. Tandis que les musiciens, comme Florent Schmitt, voulaient entendre, n'est-ce pas ? Ils trouvaient que c'était très bien. Il y a eu donc une bataille, des gens se sont vraiment battus dans la salle. Et comme vous connaissez les Parisiens, du moment que c'était comme ça à la première, nous avons donné encore 4 auditions, 4 représentations, les Parisiens sont venus pour manifester 4 fois encore. On n'entendait rien, n'est-ce pas ? À bas, rideau, etc., n'est-ce pas ? Et Diaghilev, dans la coulisse, me faisait signe de continuer.
Et Stravinsky, lui, quel
était-ce ? Stravinsky, lui, est parti, à un moment donné, n'est-ce pas ? Il en avait assez, il s'est avoué vaincu, n'est-ce pas ?
Jean Cocteau.
Le scandale est venu de ce que les habitués du ballet russe n'y comprenaient rien, et que derrière les loges de Corbeil, il y avait tous les jeunes de Montparnasse, qui en sont presque venus aux mains avec les belles dames qui occupaient les loges. On voit toujours la vieille comtesse de Pourtalès, debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail de plumes d'autruche et criant « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi !»
Parmi les spectateurs, Ravel crie au génie et se fait traiter de sale juif. Camille Saint-Saëns quitte la salle au beau milieu du ballet en levant les bras au ciel. Les insultes fusent, des gifles s'échangent. Diaghilev fait rallumer puis rééteindre alternativement la salle pour forcer le public au silence, sans succès. Écoutez le témoignage de Lucienne Astruc, la fille de Gabriel Astruc.
C'était un scandale absolu à cause de la musique et à cause de la chorégraphie. Et ça a été dans la salle une telle indignation, contrecarré par les supporters du spectacle, qu'à un moment donné, le brouhaha était tel qu'en dépit d'une orchestration dont je ne vous dirai pas qu'elle est assez bruyante, mon père a été obligé, pour qu'on puisse se faire une opinion, de se lever et de crier « Taisez-vous, écoutez d'abord, vous sifflerez ensuite ». Le scandale à tous les étages et aux loges de Corbeil, la violence avec laquelle les dames qui avaient été des pionniers de ce théâtre et qui l'avaient soutenu, qui l'avaient aidé à surgir du néant, s'étaient indignées devant le côté révolutionnaire et de la chorégraphie et plus encore de la musique, et qui, s'adressant à mon père, lui avait dit « Monsieur, si une plaisanterie comme celle-là devait se renouveler, je me verrais dans l'obligation de vous renvoyer mon abonnement ».
D'abord installé au fauteuil 111, au quatrième rang de l'orchestre, Igor s'est réfugié dans les coulisses. Le vacarme est tel que les danseurs n'entendent plus la musique. Nijinsky, monté sur une chaise, compte les temps comme il peut en leur hurlant « 16, 17, 18 !» Le rideau se referme dans un désordre indescriptible. Le seul à ne pas s'être affolé est Pierre Monteux, qui est resté, dixit Stravinsky, impassible et blindé comme un crocodile. À la fin de la soirée, Diaghilev, Nijinsky et Stravinsky se retrouvent au restaurant pour arroser le scandale au champagne. « C'est exactement ce que je souhaitais », aurait commenté Diaghilev. Igor fanfaronne nettement moins. Cette pièce dans laquelle il a tant investi a à peine été entendue dans ce brouhaha. Ses amis tentent de le rassurer, des habitués du lac des cygnes, que voulais-tu qu'ils disent ? En grommelant, le compositeur commence déjà à accabler le chorégraphe, comme c'était loin de ce que j'avais voulu. Le lendemain, les jeux de mots fleurissent dans les journaux. Le massacre du printemps, le massacre des tympans. On moque, je cite Adolphe Bosco, les danseurs affubés de couleurs des plus hurlantes, de bonnets pointus et de peignoirs de bain, de peaux de bête, de tuniques pourpres gesticulant comme des possédés. Ils piétinent, piétinent, piétinent. Stravinsky se défend par même voix de presse. Qu'on ne m'ait pas compris, je l'admets fort bien. Mais ce qui me paraît injustifiable, c'est le manque de bonne volonté de ce public devant qui je me présentais avec confiance. Et de défendre loyalement Nijinsky, admirable artiste capable de renouveler l'art du ballet. Qu'est-ce qui a donc choqué dans le sacre ? Le thème, non. Le préhistorisme est à la mode, les frères Rony s'en sont fait une spécialité, la guerre du feu est parue en 1911. En revanche, ces robes droites, ces lourdes bottes, cette danse primaire ont exaspéré. D'autant qu'il n'y a pas de star côté danseur pour porter et incarner la chose. Stravinsky a voulu un rituel collectif. Souvenir du comédien Pierre Bertin.
La chorégraphie est-il de Nijinsky ? Eh bien, Nijinsky, que l'on admirait alors pour son spectre de la rose, pour ses sauts extraordinaires qu'il faisait, comme vous le savez, dans ce ballet, on vit un autre Nijinsky. Et les Parisiens, les vieux esthètes de Paris, la haute société, ne reconnut pas son Nijinsky. Cette fois-ci, Nijinsky était un Russe, un vrai Russe, un Moujik. Toute cette primitivité, il la portait en lui. Et grâce à la musique de Stravinsky, il a pu faire une chorégraphie qui bouleversait complètement tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Les répétitions du même geste, et cette monotonie des attitudes, et puis surtout la direction des pieds, qui était maintenant tout à fait nouvelle dans le ballet. Et ce souci de s'opposer à la pose traditionnelle des danseuses, qui sont, comme vous le savez, toujours les pointes en dehors, et bien cette fois-ci, pas du tout, les pieds étaient en dedans.
Le scandale du spectacle a donc masqué la musique. C'est dommage, parce qu'elle est hors du commun. Claude Debussy écrit à André Caplet « Le sacre est une chose extraordinairement farouche, de la musique de sauvage avec tout le confort moderne. » Florent Schmitt parle d'une aventure des sons. Et Jacques Rivière, dans la Nouvelle Revue Française, « Tout ici est franc, intact, limpide et grossier. » On n'avait jamais écrit ainsi pour l'orchestre. Un effectif gigantesque, bois par 5-8 corps, percussions pléthoriques, des registres extrêmes, des alliages jamais essayés auparavant, des instruments poussés dans leur retranchement, les glissandis de trombone feront beaucoup parler d'eux. Il y a encore ces mesures complexes, ces décalages, ces rythmes impairs, et puis le raffinement harmonique, l'usage de la polytonalité, ou plutôt de la polymodalité, pour la première fois d'une manière aussi systématique. Stravinsky commentera à ce sujet... Grâce à Petrouchka, j'étais sûr de mon oreille au moment où je commençais le sacre. Le scandale est d'autant plus incompréhensible pour Igor qu'il n'a pas conscience d'avoir fait du neuf. Ou plutôt, il sait de l'intérieur d'où sa musique vient. Il le révélera plus tard à Manuel Rosenthal.
Alors il m'a dit, il faut remettre les choses à leur place. Je n'ai pas inventé de toute pièce, personne n'invente jamais de toute pièce. Moi comme les autres. Alors mélodiquement, j'ai pris énormément de sujets dans la liturgie slavonne, dans le folklore russe, et puis des choses qui surviennent, on ne sait pas pourquoi, par exemple le début qui a tellement étonné les gens, n'est-ce pas, ce basson qui dans l'aigu vient clamer quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Eh bien je l'ai entendu, note pour note, joué par l'Alpenhorn dans les montagnes suisses. On sait ce que c'est que cette immense sorte de trompe qu'on pose sur le sol et dans laquelle on lance des appels pour appeler les troupeaux. Eh bien, voilà. Quant à l'orchestre devant lequel on s'étonne, eh bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon maître Rimsky. Et si vous voulez regarder, vous pouvez vous procurer cette partition, il y a un opéra de Rimsky qu'on ne donne jamais qui s'appelle Mlada. Et dans Mlada, il y a un grand ballet. Et il y a l'orchestre à peu de choses près du Sacre du Printemps, c'est-à-dire les bois par cinq, et enfin tout ce que j'ai mis dans le Sacre du Printemps, eh bien mon maître Rimsky l'avait utilisé dans Mlada.
Le résultat est ambivalent. En une soirée, Stravinsky est devenu le révolutionnaire, le trublion, le symbole d'un partage des eaux entre anciens et modernes qui était latent dans le milieu musical et mondain, mais qui soudain, à cause de lui, se trouve explicité. Il va sans dire que la guerre qui arrive va rendre tout cela presque dérisoire. Thank you. La danse sacrale qui referme le sacre du printemps d'Igor Stravinsky par Théodore Curensis et Musique Eterna. Stravinsky, chronique de sa vie, une émission de Lionel Esparza préparée par Flora Sternadel, mise en page par Christine Amado, recherche Ina Haute-Vassan, à la technique Étienne Collin. Je vous retrouve dimanche prochain, 11h, pour notre troisième épisode, Les années de pèlerinage.
À réécouter sur francemusique.fr.